France Maghreb 2.
À la une de ce grand forum pour ce lundi 16 décembre, élection britannique. Jean-Luc Mélenchon a évoqué le CRIF et la responsabilité des réseaux d'influence du Likoud dans la défaite du travailliste Jeremy Corbyn. Pensez-vous que le lobby communautaire est influé sur les résultats? On en parle avec vous dans un instant au 01 40 33 9000 avec Gamal Abina avec nous dans quelques instants. Les rendez-vous d'Anna, c'est un designer algérien qui a travaillé avec les plus grandes maisons de couture. Il sera avec nous tout à l'heure à 17h et le zapping tout à l'heure, sans oublier le quiz. En fin d'émission, c'est parti pour le grand forum qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. On a playlist du LGF aujourd'hui. Vince, le tout nouveau rentré en playlist d'ailleurs sur France Maghreb 2 avec le titre Fraternité. Le grand forum, merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver en ce jour de galère. Énième jour de galère, jour de grève en ce lundi 16 décembre. Et c'est pas prêt d'être terminé puisque demain on nous annonce encore davantage avec une grosse manifestation. D'ailleurs, France Maghreb 2, il sera présent avec notre grand reporter Robocop Philippe Boyaki qui sera sur place demain. Et il y a quelques craintes d'ailleurs du côté de la Bastille. On en reparlera évidemment. Évidemment, demain, il sera en direct avec nous. Demain, justement, puisqu'on en parle, sachez que demain, il y aura une émission spéciale autour de la réalité de la psychiatrie. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de non-dits avec de vrais spécialistes qui seront à mes côtés. Des invités, anciens patients, docteurs, infirmières, aides-soignantes. Je serai entouré, justement, de Maître Maghrebi pour la partie juridique et de Dounia Tebaoui, ex-infirmière cadre qui sera avec nous, qui a travaillé également en psychiatrie. Demain, la réalité de la psychiatrie, c'est la spéciale mensuelle du LGF demain entre 16h et 18h. Dans un instant, notre ami Gamal Abina, mais notre Tarek Mami, fraîchement revenu d'Alger, est avec nous et il a une bonne mine. On sent qu'il a pris de bonnes couleurs du côté d'Alger la Blanche. Comment ça va, Tarek?
Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très très bien, je suis content de ce voyage. Quand on est journaliste et quand on est au cœur de l'événement,
qui plus est au cœur de l'événement, on vous a vu pendant le premier discours du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Vous avez été le seul à lui poser des questions en français. Il a d'ailleurs répondu en français à l'une de vos trois ou quatre questions. Ouais. Il en a répondu à une.
Ouais.
C'est pas mal.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une préoccupation sur laquelle nous on travaille. Parce que moi, quand je vais travailler, j'oublie le texte et le contexte, comme disent les psychanalystes, puisque demain vous allez parler de la psychiatrie. Et je parle de fond des questions que nous intéressent depuis des années. Et ces questions n'ont pas disparu avec cette élection, qu'on soit pour ou contre, encore une fois. C'est pas la position de la radio. La radio informe. La radio et les yeux et les oreilles des auditeurs. Et donc, je posais les questions qui fâchent. Les questions qui fâchent pour la communauté algérienne de France. C'est le fameux article 51. On me dit c'est devenu 61, mais ça change rien. Tout le monde le connaît sous le terme article 51. La cherté des billets d'Air Algérie et des bateaux. La demande d'un ministère dédié aux Algériens donc résidents en France. Et surtout, cette question de rapatriement des Algériens décédés à l'étranger. Et j'ai été surpris par la véhémence positive de la réponse du président Tebboune, parce qu'aujourd'hui, il est président en Algérie. Ce qu'il conteste, c'est leur droit ou c'est leur problème.
Il prendra ses fonctions ce mercredi.
Il prendra mercredi ou jeudi matin, on ne sait pas. Il y aura le président tunisien qui va quitter son palais de Carthage pour une fois.
Ah bon?
Pour aller assister. Donc,
c'est pas lui qui avait dit qu'il n'aurait pas besoin d'habiter au palais de Carthage?
Non, mais il habite pas. Il travaille au palais de Carthage.
D'accord.
Non, il rentre tous les soirs chez lui.
Ah oui? Ah d'accord.
Donc, il rentre tous les soirs chez lui.
Il a tenu sa promesse.
Oui, il a tenu sa promesse. Par contre, il quitte son bureau de Carthage pour aller assister donc à l'intronisation ou à la prise de fonction du nouveau président. Et j'ai été surpris parce que...
Son premier déplacement d'ailleurs.
Oui. Il voulait pas voyager même pour les demandes de conférences internationales, mais l'Algérie, c'est l'Algérie pour les Tunisiens et pour ce président-là en particulier. Et le président Tebboune nous a fait une réponse claire, nette et précise. Il dit qu'il ne s'agit pas de question d'argent, c'est une question
de bureaucratie,
de procédure administrative, et que lui, il va la régler, y compris en créant donc un fonds dédié. Et d'ailleurs, nous, on va suivre cette mise en place et on considérera que c'est une réussite quand elle sera mise en place. Je rappelle juste pour les auditeurs de France Maghreb.
Une promesse déjà sous Bouteflika. Hein.
Non, sur Bouteflika, là, il y avait une promesse. Il y avait même une publication d'un décret, d'une espèce de loi
oui.
au journal officiel.
Qui n'a jamais été signé, quoi.
Oui, mais le décret n'a pas été signé. On a eu ici, à France Maghreb 2, une altercation avec une ancienne députée qui nous a traité de tous les noms parce qu'on a soulevé ce problème alors que elle était députée de la République algérienne, pas nous. Et moi, c'est une bataille que j'ai menée avec notre ami Ibrahim Hesmaïl, cofondateur de la radio avec moi, Allah depuis octobre 88, sur cette question de rapatriement.
Ouais, parce qu'on rappelle, par exemple, pour les Tunisiens, c'est
depuis 1967.
Depuis Bourguiba.
Depuis 1967. Et donc, je me suis toujours promis, j'ai promis à Brahim, que je continuerai à soulever cette question à chaque fois que l'occasion se prête. Et je peux vous dire que cette occasion est venue merveilleusement, Christophe, en pleine conférence de presse, où, d'ailleurs, le président a répondu à des journalistes pour dire arrêtez de me poser les mêmes questions. J'ai déjà répondu à cette question 3 fois. Et moi, j'interviens avec mes gros sabots. Et je pose ma question donc en langue française sur ces 4 questions qui concernent les Algériens. Et je peux vous dire que j'ai été beaucoup félicité par les gens dans la salle. Et surtout dans la rue, je suis devenu vedette pendant toute l'après-midi et le lendemain. Où tous les Algériens qui ont regardé la télé, parce qu'en fait, cette conférence de presse, tout le monde l'a regardée. Y compris ceux qui étaient contre les élections. Et cette conférence a été diffusée par toutes les télévisions algériennes.
Ouais.
Et donc, on m'a vu, certains me disent, on vous a vu sur Nahar, d'autres me disent, on vous a vu sur Chourouk, d'autres sur la, sur l'NTV, la télévision nationale. Donc, et beaucoup étaient contents. Il y en a même un qui m'a dit, ça fait depuis 62 que j'attendais cette question. Et il a fallu attendre 62 à ce jour pour que quelqu'un pose. Bien sûr, tout le monde, ne sait pas quelle nationalité, quelle origine. Et moi, je refuse. Quand on me pose la question, vous êtes originaire d'où? Par exemple, ça a toujours été, je suis maghrébin de France et donc je viens à ma qualité de maghrébin. Donc c'était pour moi une merveilleuse occasion que je ne voulais pas rater parce que je voulais que le président prenne acte de cette demande, comme dit Macron en parlant de l'élection de l'Algérie. Monsieur Macron a pris note,
oui,
de l'élection de Monsieur Tebboune et Monsieur Tebboune a pris note de la demande de Monsieur Mamie.
Voilà, absolument, et ça nous permettra comme ça de veiller à,
oui,
ce que la promesse soit.
On va installer la veille,
voilà,
pour voir comment ça va se passer et quand ça va passer. Et moi, je reviendrai vers lui par écrit, par tout ce que vous voulez. Il faudrait qu'avant la fin de l'année 2020, cette décision soit applicable pour les Algériens de France et du monde.
Oui, puisqu'il s'agit qu'un problème de bureaucratie, l'a-t-il rappelé.
Tout à fait.
01 40 33 9000. Alors, autre chose dans l'actualité.
Et tous ceux qui aujourd'hui nous reprochent plein de choses,
oui, bon,
je
oui.
leur demande une seule chose. C'est que, qu'à Dieu ne plaise, le jour où un décès arriverait dans leur famille ou chez leurs proches, qu'ils refusent de se faire prendre en charge par un consulat parce qu'ils contestent les élections.
Ah, c'est plutôt bien joué ça, j'avoue. Autre chose qui n'était pas prévue au programme, il faut qu'on en parle quand même parce que c'est de haute importance, c'est vrai que les oublis de déclaration au sein d'un gouvernement, alors pas celui-là en particulier, hein, de tous les gouvernements en l'occurrence, sont assez réguliers. Jean-Paul Delevoye également, on en a oublié quelques-uns, il a démissionné, ça y est, la pression était trop forte, trop lourde, il a démissionné aujourd'hui. C'est lui qui était en charge de négocier avec les syndicats
alors, on sait pas
sur cette
si
réforme
sa
des retraites.
Démission a été acceptée ou pas encore.
Si, elle a été acceptée.
Elle a été acceptée,
oui. Oui, absolument. Donc c'est acté. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix, Tarek. On voyait mal comment.
Bah, si, il y a plein de fois où le président décide de ne pas accepter.
Oui, mais là, ça aurait été vraiment très compliqué à gérer effectivement, ils ont soutenu, pas plus tard qu'il y a encore quelques jours, Edouard Philippe parlait d'un homme exemplaire, etc. Et puis ces affaires qui sortent. Mmh. Et là, ça fait quand même tâche, forcément, avec cette grève qui se durcit, Tarek. On n'aurait pas cru quand même. On en est au 12e jour. Et demain, sachez que demain, vous, usagers des transports, ça risque d'être encore plus compliqué. En tout cas, les messages que j'ai eu ce matin sur les quais des RER, c'est nous dire que ça va être pire qu'aujourd'hui et que 85% des trains ne circuleront pas demain.
Demain.
Et beaucoup de gens s'interrogent à la veille des fêtes de fin d'année. Va-t-il y avoir des trains pour Noël ou pas? On ne sait pas comment ça va se terminer, Tarek. Je ne sais pas si il faut quand même prévoir peut-être d'anticiper des départs éventuels en vacances.
On le fera.
Ouais. En tout cas,
faut être pratique, pragmatique et réaliste.
Ouais. Les syndicats, en tout cas, sont dans leur moment fort en ce moment.
Alors, en fait, il y a un chantage de Laurent Berger de la CFDT qui met en demeure le président et le premier ministre de reculer sur ce qu'on appelle l'âge pivot, 64 ans pour le gouvernement, 62 pour lui.
Ouais.
C'est lui, si le gouvernement recule à 62, la CFDT est l'une s'assigne et le début de l'effritement du mouvement syndical commencera.
Est-ce qu'il va le faire, selon vous?
Parce que, oui. Pour passer à vous savez, en politique, vous montez les enchères pour obtenir le maximum et après vous lâchez sur 10, 15, 20, 30, 40, 49. L'essentiel, c'est que le principe passe. Ouais. Et donc, il y aura plus de 42 systèmes de retraite différents. Et il y aura un système universel. Est-ce que les syndicalistes ne veulent pas voir, bien qu'il ait raison sur plein de points, je ne conteste pas leur point de vue, hein, c'est que le gouvernement, dans cette réforme, mettra les politiques au même degré que tous les citoyens. Et donc le principe 1 euro pour 1 euro, ça dépendra aussi pour les ministres et pour les députés et les sénateurs. C'est qu'en soi est une révolution. Mais ce gouvernement, des fois, il donne l'impression de ne pas savoir de la com ou ne pas vendre. Parce que je reviens juste sur là, quand il a enlevé l'ISF. En fait, là où il a perdu, c'est pas parce qu'il a enlevé l'ISF, c'est surtout parce qu'il a changé le nom. S'il avait laissé le mot ISF en disant « je retire le patrimoine de l'ISF », les gens l'auraient vu moins. Mais à partir du moment où on dit « il n'y a plus d'ISF », ben les gens ils prennent des symboles.
Alors,
il y a Gamal qui nous rejoint.
Oui, notre ami Abina. Comment ça va, mon Gamal? Bien, installe-toi tranquillement, mon ami.
Bah, c'est bon.
Bon, ça va, t'as réussi à venir?
Oula. Faut pas me demander mon opinion sur les syndicats parce que ça se passerait pas bien.
Ah bon? Ah, oui. Ah, tu veux pas aller voir Martinez demain?
Non, je peux plus.
Tu veux pas aller avec Robocop à la manifestation demain?
Non, jamais de la vie.
Ah ouais, bon.
Ah, ils penseront à eux-mêmes.
Bon, alors, messieurs, dames, à vous, amis auditrices, auditeurs, il y a embrouille entre Mélenchon et le CRIF. Mélenchon serait complotiste.
Jean-Luc Mélenchon, accusé de complotisme. Sur son blog, le leader d'extrême gauche a commenté ce vendredi la défaite du travailliste britannique, Jeremy Corbyn. Selon lui, la déroute du candidat aux élections législatives du Royaume-Uni s'expliquerait par des fausses accusations d'antisémitisme et l'influence de lobbies israéliens sur le vote des électeurs. Le Conseil représentatif des institutions juives de France a dénoncé ce samedi dans un communiqué des propos qu'il juge inadmissibles.
Quel lien existe-t-il entre le CRIF et les élections britanniques? Monsieur Mélenchon tombe dans une dérive complotiste qui en dit long sur l'évolution de sa pensée.
Le ministre de l'Intérieur a lui aussi tenu à répondre à la polémique. Christophe Castaner fustige dans un tweet les propos tenus par l'ex-candidat à la présidentielle.
La haine et le complotisme se nourrissent de sous-entendus douteux et de préjugés nauséabonds. Les propos tenus par M. Mélenchon sont choquants et inappropriés à notre débat républicain.
Dimanche, deux autres membres du gouvernement ont également critiqué les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal et Jean-Michel Blanquer.
C'est quelque chose d'ignoble, c'est inacceptable. Il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Il est dans l'ambiguïté et il dit des choses qui sont aussi scandaleuses que ce que disait Jean-Marie Le Pen à une certaine époque. Et donc, c'est toute la classe politique qui doit se scandaliser.
Bonjour.
De son côté, l'entourage du patron de la France Insoumise s'est défendu de tout antisémitisme.
Sous le feu d'une offensive politique.
Cite crypto-nazi carrément, qui est Égalité et Réconciliation de Alain Soral, 10 millions de pages lues par mois. 10 millions de pages lues par mois. Racisme antisémite. Et l'axe essentiel de ce site lu par 10 millions de nos concitoyens tous les mois, c'est le lobby juif.
Mais
c'est le lobby juif. Donc on peut également, on peut se poser toutes les questions.
Je vais répondre.
Jacques vient de Perpignan.
Est-ce mais il y a le lobby juif, ça existe, ça n'est pas criminel.
Perpignanais, le lobby perpignanais. Il y a maintenant le lobby juif qui a une action épouvantable sur la France et le lobby.
Mais dans quelle folie on est rentré. Je vais répondre à mort.
Les gens étaient vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si elle... Donc est-ce que vous allez un peu changer le...
Vous exagérez un tout petit peu.
Vous allez les engueuler,
vous exagérez un tout petit peu, non?
Je sais, vous le connaissez.
Voilà, c'est Elisabeth Lévy que vous avez reconnue évidemment pour parler de cette affaire et de cette brouille entre Mélenchon et le CRIF. Une nouvelle fois, j'ai envie de dire, c'est pas la première. Élection britannique, donc Jean-Luc Mélenchon a évoqué le CRIF et la responsabilité des réseaux d'influence du Likoud dans la défaite du travailliste Jeremy Corbyn. Pensez-vous que le lobby communautaire est influé sur les résultats? C'est la question que l'on vous pose et vous dites oui à 85% sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2 pour voter et pour nous appeler 01 40 33 9000. Le pire dans tout ça, Gamal, le pire dans tout ça, c'est que les politiques s'en mêlent et que ils prêtent une fête et cause pour le CRIF, hein, parce que par exemple vous avez Jean-Michel Blanquer qui a dit que c'était inadmissible, qu'il fallait que tout l'aspect politique s'en mêle et condamne ces propos scandaleux de Jean-Luc Mélenchon qui fait de l'anticommunautarisme, pardon, ouais, et qui tape sur le CRIF, c'est scandaleux, Gamal.
Bah moi, je suis désolé pour le coup, là, je vais peut-être pas être suivi, mais franchement, c'est minable de sa part.
À qui ?
À Mélenchon. Nul de chez nul. Pourquoi il nous met le crif en Angleterre ? Pourquoi il nous parle d'influence alors que le problème n'est pas là ? Le vrai problème, c'est qu'il pose pas les bonnes questions. Et moi, ce qui m'interroge, c'est quoi ? C'est qu'apparemment, Mélenchon, il est pour l'Europe, il est pour l'Union, il est contre le Brexit. C'est ça l'idée. Et quand il parle du crif, c'est une façon de ramasser à bon compte le vote musulman en gros français, parce que c'est facile de capitaliser dessus. Mais l'histoire c'est vraiment méconnaître l'Angleterre à un niveau incroyable.
Mais il parle du candidat travailliste qui semble-t-il le lobby juif, en tout cas en Angleterre, n'était pas franchement pour lui, qu'il avait des antisémites autour de lui.
Oui, d'accord, mais le problème du lobby juif en Angleterre, c'est
qu'il... Lui-même est traité d'antisémite.
Oui, mais le lobby juif en Angleterre, il compte pour rien. On n'est pas en France, en Angleterre. L'Angleterre n'a pas le passé-crasse de la France avec Vichy. L'Angleterre n'a pas l'influence considérable que peut avoir un lobby. On ne connaît même pas d'ailleurs le lobby juif en Angleterre. C'est quoi son nom? On ne sait pas. Il est très marginal. C'est pas l'AIPAC, c'est pas le CRIF. De faire croire qu'une élection qui est essentiellement une élection de rejet de l'Europe ou d'adhésion, c'est une question, se réduirait à la question palestinienne, soi-disant, à des questions antisémites, c'est une plaisanterie, mais d'un niveau douteux. Et moi, j'interroge pas la question du CRIF où Mélenchon fait son numéro pour abattre les militants arabo-musulmans. J'interroge la position
c'est
de Mélenchon.
Électoraliste, c'est électoraliste.
À mort. On est à deux pas des élections locales. Hein. J'interroge Mélenchon sur une question. Pourquoi est-ce qu'il fait cette sortie-là, alors que la question qui se pose en Angleterre, c'est de savoir est-ce que oui ou non les Anglais restent en Europe. C'est ça la question qui se pose. Donc apparemment, Mélenchon, il est pour le maintien de l'Angleterre en Europe. Donc c'est bien un européen, non pas sceptique, mais un pro-européen, quoi.
Ouais, 01 40 33 9000. Donc toi tu condamnes la sortie de Mélenchon,
mais pas le CRIF, hein. Le CRIF, je veux dire pas le CRIF.
Ouais.
Tu dis que Mélenchon, ça va 5 minutes d'hypocrisie. C'est le même qui nous sortait à l'époque le chiffon sur la tête. Hein. Faut jamais l'oublier.
Ouais.
Donc moi, de la part d'un type qui a des propos extrêmement tendancieux, comme à l'époque quand il attaquait, soi-disant une manifestation pour Palestinienne, il la quitte parce qu'il y a des musulmans qui font la sécurité. C'est ça Mélenchon. Faut jamais l'oublier. Donc la Palestine, un jour.
Est-ce qu'il a pas tout perdu aujourd'hui, Mélenchon?
Bah, il est fini. Bah,
depuis son coup d'éclat.
Ouais, depuis son.
Vis-à-vis de la. De son parti, de son mouvement, la France insoumise, et la perquisition, où il a perdu ses nerfs.
Il était ridicule, et surtout, la France c'est moi, je sais pas ce qu'il a senti, c'était ridicule.
La France c'est moi.
Ouais, c'est ça, ou la République c'est moi.
La République c'est moi. Je suis une personne sacrée.
La République c'est moi.
Ça me rappelle notre ami Bouteflika.
Oui, mais en pire.
L'Algérie c'est moi, et que les généraux me bouffent s'ils peuvent.
Ouais, mais.
Et ils ont fini par le bouffer, au fait.
Ouais, enfin. Ça, je sais pas si on vous plaît. Il a coopté un général, en tous les cas.
Ouais.
Mais non, mais Mélenchon, il est personne, il dit la République chez moi, c'est ridicule. Et puis surtout, c'est pas ça.
En fait,
il y a une affaire, il est poursuivi, hein.
Non, mais c'est pas la première fois qu'il sort contre le CRIF. C'est la troisième
vidéo. Oui, c'est la troisième fois, bien sûr.
Vidéo.
Bah oui.
Et je pense que
ça mange pas de pain.
Bah oui. Il pense qu'il peut, comment dire, coaguler, pour faire simple.
Et à chaque fois, il le fait avant une élection, hein. Faut jamais l'oublier. C'est toujours avant une élection.
Il sera pas invité au prochain dîner, lui. Ça, c'est clair.
Il a jamais été invité.
Non, mais il a jamais été invité et il a refusé.
Il a refusé d'y aller.
Je suis invité d'y aller.
Ouais. Alors, on est avec Youssef au 01 40 33 9000. Bonjour, Youssef.
Allô?
Oui, bonjour, Youssef. On vous écoute.
Allô, bonjour, messieurs.
Bonjour.
Alors, on critique monsieur Mélenchon. C'est scandaleux.
Oui, et à part ça?
Non, mais je trouve qu'il a un peu 10 ans, il a raison. Mais seulement, faut pas se cacher, comment dire en arabe, faut pas cacher l'horreur belle avec le soleil.
Youssef, est-ce que je peux vous poser une question?
Voilà, parce que faut pas oublier, il y a pas très longtemps, j'écoutais ils ont ramené l'image les Français.
Youssef,
comment ils avaient l'image des Juifs.
Youssef.
Oui.
Est-ce que je peux vous poser une question?
Oui, allez-y.
Bon, vous savez qu'il y a moins d'une semaine, il y a une résolution qui est passée à l'Assemblée nationale française.
Oui.
Qui dit que l'anti-sionisme est la même chose que l'antisémitisme.
Ah, bien joué.
Vous avez entendu. Est-ce que vous avez vu une grosse déclaration de Mélenchon qui attaque le CRIF alors que c'est le CRIF qui a amené cette résolution? Ben non. Non.
C'est pas le CRIF qui a amené.
Vous inquiétez pas.
C'est Macron devant le CRIF.
C'est Macron devant le CRIF à la demande du CRIF.
Absolument.
Et je peux vous envoyer la.
C'est plié, Macron?
Non,
Non, il s'est pas plié. Ça fait partie de sa.
Voilà.
Mais alors, Monsieur Mélenchon n'a rien dit. Mmh. Et il a envoyé d'ailleurs Monsieur Coquerel, ou comment il s'appelle, à la défense de la chose. Mmh. Et il a appelé une députée femme qui a. Mais lui, il a pas parlé. Il aurait pu dire exactement la même phrase en franco-français. Mmh. Et là, les gens auraient mieux compris. Mais aller chercher à défendre ce qui s'est passé en Angleterre, alors qu'en Angleterre, le côté, c'était êtes-vous en clair pour le Brexit?
Absolument.
Et c'est Johnson qui est pour le Brexit. Oui, ou pour rester en Europe.
Qui a tout rappelé, d'ailleurs.
Non, mais, et c'est Corbyn qui veut rester en Europe.
Ouais.
Donc, faut plutôt l'analyser comme un rejet de l'Europe par les Anglais et non pas comme une puissance du lobby juif. Alors, je vous envoie juste Elisabeth Lévy en France qui dit qu'il y a un lobby juif par les CRIF. Zemmour lui-même dit qu'il y a un lobby juif. Donc, il nous apprend rien. Mais son problème, et je termine là, cher Youssef, pour vous laisser la parole, c'est que, en arabe, je veux pas dire truc, mais bon, c'est des choses vraies qui sont utilisées dans un mauvais endroit.
Oui, oui. Non, mais c'était pour lorsque je dis faut pas l'attaquer. Moi, je malgré ça, je préfère Mélenchon au faux cul en parenthèse au faux cul de la droite.
Non, mais c'est votre droit. Autres, quoi, hein. Mais c'est votre droit. Non, c'est votre droit. Ça, on le conteste pas, nous.
Oui, voilà. Parce que la France, faut dire, regardez, dans les médias, tous les médias, ça va de Radio France, les journaux, la presse, tous les grands groupes, ils sont dirigés par qui?
Non,
oui.
Et vous viendrez me dire qu'est-ce que vous avez entendu à France Inter tous les jours, toutes les matinales. Par contre, vous avez des personnes qui sont de culture ou de religion ou d'idéologie juive ou sioniste qui sont propriétaires de leurs médias. Ben, ils sont libres dans leurs médias, comme nous, heureusement, ici, nous sommes libres de nos médias. Donc, j'allais dire, faut toujours regarder, et vous avez utilisé très belle phrase tout à l'heure, entre le soleil et la lumière, l'arbre et la forêt, faut voir que nous, les gens qui se disent arabes et musulmans, ils mettent leur argent où? C'est dans les casinos.
Oui, oui.
Ben,
oui,
les autres, ils mettent leur argent dans les médias.
Et dans le foot.
Dans le foot, pour faire plaisir à notre ami Christophe, avec le PSG. Mais qu'est-ce qui les empêche d'être dans les médias et de faire le travail, comme dit le chanteur que Christophe a passé tout à l'heure.
C'est pas parce qu'il y a des cons, des analphabètes. C'est notre malheur à nous, des orientaux, qui ont bousillé l'image de l'islam.
C'est notre malheur à nous tous.
De la culture arabe, scientifique et tout.
Ouais. Et nous, on paye le prix.
Moi, je ne me considère pas représenté par ces putes du golf. C'est pas parce que le mec il a fait une tour de 1 kilomètre que ça va m'impressionner. Et c'est pas lui qui l'a construit, vous voyez ce que je veux dire? C'est les Américains.
Merci
c'est
Youssef.
Les Allemands, c'est les Anglais,
en tout cas, on note.
Merci
que
Youssef.
Que notre ami Gamal attaque Mélenchon. Attendez. Que Monsieur Gamal attaque Mélenchon et que Youssef n'aime pas qu'on attaque trop Monsieur Mélenchon. Et c'est deux choses qui se disent, c'est France Maghreb 2. Oui, je vous écoute Youssef, vous voulez rajouter un mot?
Merci Youssef, on n'a plus le temps parce que c'est la pub. On aura Jeunesse de Bordeaux dans un instant. Sur France Maghreb 2, le LGF 01 40 33 9000. Je vous ai réservé un petit quiz, les gars.
Ah oui.
Alors là,
je veux le gagner pour faire plaisir à à Modeste.
Je vous souhaite bon courage, hein, parce que là, je fais appel à vos références historiques dans un instant. Sans franchement, ne bougez pas. Merci d'être avec nous avec Gamal Abinata, Tarek Mami en ce lundi 16 décembre. Bon courage à vous, vous qui êtes dans les voitures, dans les embouteillages, dans les transports, dans les gares saturées. Bon courage, l'occasion peut-être d'écouter davantage le Grand Forum France Maghreb 2, d'en profiter donc dans votre voiture. Prudence d'ores et déjà pour demain, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Monsieur Gamal Abinata, Monsieur Tarek Mami, nous parlons donc de la brouille entre Mélenchon et le CRIF et des
la deuxième du genre, la troisième.
Et la réaction de la sphère politique, hein, Blanquer qui a réagi, qui trouve scandaleux absolument. Enfin, Mélenchon est traité de complotiste. On a vu que Gamal était pas franchement pro Mélenchon, l'a compris. Younes de Bordeaux.
Youssef était contre Gamal.
Younes de Bordeaux, bonjour. Younes.
Parce qu'il est encore là, Younes.
Ah bah apparemment à Bordeaux on a perdu le fil là pour l'instant.
Ah,
Younes. Bon, il est parti, Younes. Bah, qu'il nous rappelle 01 40 33.
On le rappellera.
9000, évidemment, qu'il puisse nous rappeler, il n'y a pas de souci. 01 40 33 9000. Est-ce que vous considérez, Tarek Mami, que c'est électoraliste ce que fait Mélenchon à chaque fois? Est-ce que, et je compléterai ma question, est-ce que Mélenchon aujourd'hui, depuis sa non-participation au deuxième tour, et là ça a été quand même un tournant pour lui, est-ce que là, depuis là, il ne fait que tout perdre finalement?
Il n'a toujours pas digéré le fait de ne pas être deuxième derrière Macron, le président Macron ouais, candidat ouais, à l'époque. Il n'arrive pas à digérer, et là il a prouvé qu'il n'est ni la République, ni la France, ni un homme politique, parce que la règle du jeu dans un pays démocratique, entre guillemets, depuis trois siècles, ouais, c'est on respecte le résultat du vote, ou on fait comme Jospin, on ouais, démissionne, on se casse, ouais, mais pour moi, M. Mélenchon, je l'ai dit le lendemain du premier tour, n'est pas un homme politique crédible, il faut accepter les résultats du jeu, quand bien même on n'est pas d'accord avec ces résultats.
Redouane...
Sinon, il est hiérarchiste comme beaucoup d'autres.
Ouais, commencez pas à les chercher. Ouais. Redouane de Paris, bonjour.
Allô, oui.
Oui, bonjour Redouane, comment ça va?
Pas Redouane, c'est Reda.
Ah, Reda, pardon. Bon, Redouane, oui, Reda.
Il a rallongé le nom, Reda, Redouane, il a rallongé un petit peu. Hein.
Voilà, c'est ça.
Il a mélangé, monsieur Tarek.
Bonjour à vous, monsieur Reda.
Bonjour Reda, qu'est-ce qui se passe, Reda, on t'écoute.
Voilà, moi je voulais intervenir parce que j'ai analysé la dernière séance chez vous. Et par rapport à l'intervention de monsieur Tarek Mami qui était sur Alger. Donc, j'ai vu certaines choses un petit peu. Il y a un paradoxe, peut-être les journalistes ont changé de paradigme.
Pas moi, pas nous.
Oui, je comprends. Ce qui m'a étonné chez vous, M. Mami, c'est que vous étiez trop penché pour le système algérien.
Oui. Alors, je vous écoute.
Bon. Zone n'a pas été vraiment élu, il a été fixé.
Si vous voulez, c'est votre droit de le penser.
Oui, moi je pense comme ça, parce que c'est réel quand on voit les statistiques, soit on fait une analyse mathématique ou une analyse victorienne, on voit très bien qu'il a été fixé.
Est-ce que vous vous rappelez du taux de participation du dernier mandat de M. Bouteflika en 2014?
Au dernier mandat de Bouteflika, on a vu que...
Combien est-ce que vous vous rappelez de mémoire comme ça?
J'ai pas l'impression que ça s'en souvienne, ouais.
Non, mais moi je me souviens, c'est pour ça que je pose cette question.
Oui, moi je l'ai analysé par rapport au mandat de 95.
Ah d'accord,
de
non, ça c'est autre chose.
Non. Il était à 36%.
Oh, non, 95 c'est autre chose. Moi je parle de 2014. Parce qu'en 2014, ils étaient à 50,1 en clair de participation, alors que tout le monde disait que les urnes étaient bourrées.
Tout à fait, les urnes
voilà, étaient... Cette fois-ci, est-ce que les urnes étaient bourrées ou pas? Je ne rentre pas dans ce débat. Nous, ce qu'on a fait à France Maghreb, cher Rida, c'est qu'on a passé 2 heures en direct à partir de la manifestation.
Oui.
Sur le Facebook de la radio, parce qu'on peut pas passer 2 heures à la radio. Et on a fait 1 heure avec Christophe au débriefing de l'émission, de la manifestation. Ce qui fait que notre rôle, c'était de dire ce qui se passe dans la rue, dans la manifestation et de l'autre côté.
Vous avez dit qu'il y avait un millier de personnes qui braillaient trop fort.
Oui.
Et on avait l'impression qu'ils étaient nombreux. Il n'y avait même pas un drapeau algérien qui flottait parmi les manifestants.
Non, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de drapeaux algériens et que moi, à moins que je me trompe, je n'ai pas vu de drapeaux dits berbères. Mais il y avait des drapeaux algériens tout le temps. Et je dis qu'il y avait...
Vous savez, les drapeaux berbères, c'est la prison en équivalence.
Non, si vous voulez, non mais moi je décris...
Moi-même, je le porterai pas.
Ouais. Moi je décris ce que je vois. La veille, avant les élections, pour moi, ils étaient moins de 1000, ils étaient 500. Et on parle de plusieurs. Par contre, le vendredi après-midi, il y avait une marée humaine, mais c'est pas organisé comme en France, parce qu'en France, quand vous prenez, par exemple, de la place de la République à la place de la Bastille, quand vous êtes journaliste, vous courez sur le trottoir, vous pouvez compter. En Algérie, vous pouvez pas, parce qu'elle est sinueuse et qu'elle passe par plusieurs avenues, et que vous pouvez pas, si vous voulez, avoir une estimation. Donc, je me suis abstenu de donner aucun chiffre.
Moi, ce que je vous salue, c'est que vous avez fait une mission extraordinaire et très difficile.
Je vous en prie.
Le sort a joué pour les Algériens, les Hera qui sont dans la rue. Oui, c'est une très bonne affaire pour les Algériens.
Oui.
Parce que Mister Cocaïne, il est connu mondialement. Donc il faut pas s'inquiéter. Il va se planter partout. La seule chose maintenant, il faut qu'on sorte le représentant de Hirak.
Oui, là je partage.
Parler avec eux.
Oui.
Tout simplement. Ouais. Mais
Il faut qu'il s'organise, Hélak.
Oui.
Il faut qu'il s'organise, Reda, hein, et qu'il se constitue et pour préparer les législatives.
Une fois quand ils vont commencer à libérer les détenus de l'opinion publique, une fois qu'ils sont libérés, les choses ils vont se passer et les négociations ils vont commencer. Je ne vous dis pas que ça va se régler en une année,
ouais.
Mais au moins dans 5 ans, on aura une autre vision pour les Algériens.
Il y a une chose intéressante quand même.
Un éveil public extraordinaire.
Oui, voilà. Gamal.
Mais il y a une chose intéressante quand même. C'est marrant, les gens, ils ne font pas de recul. Sur 10 mois, la plupart des grands voleurs qui étaient à la tête de l'État sont en prison, ont pris entre 12 et 15 ans, voire 20 ans pour ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas voulu revenir parce qu'ils sont tous en train de se cacher. Hein. Les rats ont quitté le navire.
Oui,
ça, c'est extraordinaire.
Vous imaginez, en Algérie, un voleur de téléphone, il risque jusqu'à 7 ans.
Non, mais, oui, mais je vais noter, en Algérie...
Un milliard, il en prend 15 ans.
Non, mais c'est pas le problème. Aujourd'hui, en Algérie...
Donc, mieux vaut voler des milliards qu'un téléphone.
Non, mais aujourd'hui, en Algérie, on a des...
voler des milliards.
Non, mais on est en Algérie...
Tout à fait. Il est en prison, il va pas... Il va sortir bientôt.
Oui, c'est bien dommage.
Mais il a gardé tous les milliards.
Oui, mais on a... Qui ça?
Khalifa. Il va peut-être sortir, mais il a pas gardé les milliards.
Il a plus rien, maintenant.
De sinistre mémoire.
Merci Reda, en tout cas, voilà, vous voyez qu'ici on se parle ici.
Merci
hein
beaucoup et bon courage pour vous parce que c'est très très difficile pour couvrir les événements en Algérie.
Bon, je pas si difficile que ça, je pense que tu arrives pas mieux, on est revenu.
Ça va mieux là.
Ouais. J'ai beaucoup aimé votre question que vous avez posée au président, ouais. Elle était très objective.
Voilà.
Et il n'y a pas de la redondance dans votre question. Elle était claire et nette.
Il nous a bien représenté.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Reda.
Allez, bonne continuation.
Reda, tu reviens pas m'engueuler demain. Hein.
Ah non, non.
Bon, d'accord. Non, parce que j'ai l'habitude, moi. Salut, bon Reda.
Pour des bonnes choses.
Non, mais l'avantage ici, Reda, ce qui est important à signaler, à constater ici, c'est que. Effectivement, il y a certains auditeurs qui peuvent se poser des questions concernant la ligne éditoriale, le traitement d'informations. On n'a pas besoin de rappeler ce qu'on a déjà rappelé 1000 fois. Mais ici, l'avantage, c'est que, à l'instar des autres radios, vous pouvez venir ici apporter vos critiques à l'antenne, puisque on vous filtre pas quand vous arrivez. On vous passe, on vous demande simplement votre prénom, votre vide d'appel. Et moi, à la limite, vous pouvez me dire ce que vous voulez après, une fois arrivé à l'antenne. Donc, il y a une histoire de confiance qui s'installe entre vous et nous. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour préciser. Merci Reda, en tout cas, et bon après-midi à vous. Dans un instant, on va parler avec un designer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un designer, mon cher Gamal?
C'est celui qui désigne.
Le dé, ouais, designer,
non,
c'est,
non,
le
terme, il désigne pas.
C'est le terme anglais pour dire que c'est celui qui fait du dessin. Ça peut être dans la mode, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans...
Non, mais je suis sûr que ça va t'intéresser, d'autant plus qu'il est algérien, ce designer.
Ah, plus forte raison.
Ah oui. Il a travaillé avec les plus grandes maisons de couture. Hein. Si je vous dis, par exemple, Louis Vuitton, comment il s'appelle? Asdin Alaya, la maison Asdin Alaya.
Ah ouais.
Givenchy, voilà, donc c'est un grand designer algérien qui sera avec nous dans un instant dans les rendez-vous d'Anna qu'on va passer dans quelques instants. Juste avant, je voulais quand même qu'on se fasse un petit zapping parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas fait de zapping dans cette émission, donc on va le faire. D'autant plus que j'ai du lourd. Tiens, un accrochage sévère. Est-ce que vous connaissez Zorabitan? Oui, bien sûr, que donc Zorabitan, qui est une chroniqueuse des Grandes Gueules, et Anas Kazib, qui est le cheminot des Grandes Gueules. Écoutez, ça vaut son pesant d'or.
Parce que vous êtes tous des escrocs, et je le dis aujourd'hui ici.
Mais t'as été 20 ans au Parti Socialiste, t'as été de celles et ceux qui ont été dans SOS Racisme et compagnie. Arrête 5 secondes,
tu t'es réveillé d'un coup, tu nous racontes
des balivernes, tu nous racontes des histoires, tu ne connais rien du voile, tu ne connais rien de l'islam, d'accord? Tu ne connais rien de l'islam et tu ne connais rien du voile. Tu peux parler aux gens qui connaissent rien du tout et qui t'applaudissent et qui disent chouette, enfin une arabe qui nous dit la vérité sur la secte des musulmans. C'est faux.
Tu m'insultes, c'est pas un môme comme
faux.
Toi qui va me parler comme ça.
Oui,
mon
oui.
père, il s'appelle Hadj Mamed.
Oui.
Il a fait 18 oui. années de pèlerinage à la Mecque pour les
oui.
personnes handicapées
oui.
et âgées.
Oui.
J'ai grandi et baigné dans l'islam.
Oui.
El Hamdou, je le connais par cœur.
D'accord.
J'ai grandi avec des parents qui faisaient la prière 5 fois par jour.
Oui.
J'ai grandi avec un curé qui venait.
Et ben pourquoi t'en parles comme si c'était la misère du monde?
Oui. El Hamdou, je le connais par cœur.
Zorabitan. Voilà. Alors extraordinaire. Anas Kazib, quand même, il a été très très fort. Ça fut assez mouvementé entre les deux, pas sûr qu'il refasse une émission de sitôt. Heureusement, entre nos chroniqueurs, ça se passe mieux.
En tout cas, pas avec elle.
Oui, absolument. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain l'ancien président de la région Île-de-France?
Oui, mon ami Jean-Paul Huchon.
Jean-Paul Huchon. Eh bien voici que je l'ai attrapé en train de dire que le lobby le plus intelligent est le lobby juif. Écoutez.
De clientélisme, hein, Emmanuel Macron qui a parlé de ses maires, hein, qui s'enlisent dans ce clientélisme. Jean-Paul Huchon, finalement, le fait que la loi ne soit pas très claire, on peut financer des centres culturels qui abriteraient des mosquées. On se met, là, on n'est pas hors la loi, mais pourtant la loi de 1905 interdit à tout organisme public de financer les lieux de culte. On va voir cette loi affichée à l'écran.
C'est très juste, mais n'oubliez pas.
Il y a des tours de passe-passe.
N'oubliez pas non plus que tout le monde est mouillé là-dedans, parce que moi, quand j'étais président de la région Île-de-France, ceux qui étaient les plus habiles à présenter des dossiers culturels par rapport à des dossiers cultuels et à mélanger, c'était quand même les gens du lobby juif principalement. Hein.
Oui, parce que ça concerne tous les cultes. Hein,
ça se fait beaucoup, ça. Mais
alors comment ça se passe? On présente un projet culturel en disant ça va être une salle de sport et dans un bâtiment, et finalement dans ce bâtiment il y a un lieu de culte.
C'est plus ou moins intelligent.
Donc la région peut financer.
Généralement on vous présente ça comme un centre culturel.
Oui.
On a connu le cas
la mairie de Paris aussi a financé.
Il y a trois lieux comme ça qui ont été faits à un niveau très élevé avec la maire de Paris, le président de région, etc. Il faut quand même reconnaître ces choses-là.
Incroyable quand même, Jean-Paul Huchon qui
se... raison.
Oui,
ouais, mais c'est quand même méchamment antisémite. Hein,
Il n'est pas interdit d'être... comment dire...
habile.
Non, il n'est pas interdit... à la fac. Il est interdit de violer la loi, mais il n'est pas interdit de détourner la loi et de contourner la loi.
Oui, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'il utilise des propos qui flirtent avec l'antisémitisme. Les Juifs sont plus riches, ont plus d'argent, sont plus
intelligents. Il a pas dit ça. Je prends les clichés. Il a dit qu'ils sont plus habiles.
Je prends les clichés.
Oui.
Ils sont plus habiles dans la finance.
Ils sont plus habiles dans la maîtrise de la loi.
Oui, mais non, c'est honteux de sa part. Parce qu'ils sont pas plus habiles, par exemple, que
je suis.
Non, c'est pas vrai. Ils sont pas plus habiles. Non, mais je vais donner un exemple très concret.
Là, vous allez m'énerver, gamin.
Non, je suis très concret.
Vous avez un mec brut de beau temps, il veut voir le maire. Monsieur le maire, je vais construire une mosquée.
Mais on parle pas des nôtres. Lui, il dit plus habile. Donc, plus habile que tous les Français.
Non.
Je suis pas d'accord.
Les nôtres sont pas habiles.
Non, ils sont pas
habiles. Ils vont brut de béton.
On se croirait dans les grandes gueules.
Excusez-moi.
Juste une seconde.
Monsieur le maire, je vais construire une mosquée.
Mais je parle pas des nôtres.
L'autre, il arrive,
il dit. Non, je parle pas des nôtres. Il a dit plus habile de tous les Français. Il a pas précisé.
En vérité. Il a pas dit de tous les Français.
Non, mais si.
Il a dit
les plus habiles.
Oui,
les plus habiles.
Mais pas de tous les Français.
En vérité. Bah si. Quand il est plus habile, il parle de qui? Il parle des Français.
Non.
Bah si, parce qu'il y a
des autres communautés.
Non. Il est le plus habile de ceux qui viennent demander
les subventions. Et les églises, on les oublie là-dedans?
Non. Il est plus habile parmi ceux qui viennent demander les subventions.
Mais c'est pas vrai. Les Chinois sont plus habiles encore. Les Bretons sont encore plus habiles.
Mais ils n'ont pas les Chinois.
Comment ils n'ont pas quoi?
Les Chinois n'arrivent
pas. Ils font les centres culturels, ça marche très bien. Les Turcs cartonnent. Les Turcs sont très bons aussi.
Ils n'arrivent pas à financer.
Ah si. Ah si. Sauf qu'ils sont discrets.
Va falloir qu'on aille.
Non, ils sont discrets.
Oui.
La différence, c'est qu'ils ont discret.
De façon, ici, à France Maghreb 2.
Ça, c'est un vieux mythe encore.
Ouais, voilà, tout à fait. À France Maghreb 2.
La discrétion des Chinois.
Oui.
Non, pas seulement Chinois, les Turcs sont discrets aussi. Ils font très bien le travail et ils sont discrets.
Non, mais ce qu'on verra à partir de l'année, à la rentrée, là, on va se reposer un petit peu. C'est qu'on ira chercher ces communautés, j'aime pas le mot, mais c'est comme ça.
Mais ils existent, c'est pas grave.
Et on va tous les faire venir et leur poser la question.
Moi, je connais très bien la communauté turque, par exemple.
On les amènera tous.
En termes d'habileté, ils seront pas mauvais,
hein. Déchets kurdes.
Avec la question.
Ou le kurde.
Comment vous faites pour obtenir des subventions, pour construire, comme dit monsieur Jean-Paul Huchon, comment vous faites pour obtenir des subventions, pour construire des centres culturels dans lesquels vous faites des mosquées? C'est ça qui m'intéresse. Quant à monsieur Huchon, j'adore, parce que monsieur Huchon était patron de la banque de dépôt de consignation juive à Lévis de Christophe. Monsieur Balladur a été premier ministre, au bout de 6 mois, il lui a fixé un rendez-vous à 7h du matin. Monsieur Huchon vient et l'autre dit bonjour monsieur Huchon. Et l'autre, bonjour. Et il dit, vous savez, je suis Premier ministre depuis 6 mois, et le bruit de votre nom n'est jamais arrivé à mes oreilles.
Je vous demande de vous arrêter.
Et donc, je vous demande de partir, parce que quand quelqu'un est patron de la caisse de dépôt de consignation et que son nom fait pas de bruit, en bien ou en mal, ça veut dire qu'il ne sait pas sa place.
Allez, pour terminer ce zapping, avant de trouver le rendez-vous d'Anna,
tiens,
on a trouvé un point d'accord entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Marine Le Pen était l'invitée du grand rendez-vous politique d'Europe 1, et elle a réagi, évidemment.
Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans et plus, tout le monde est fatigué. Donc ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça.
Bon, vous faites un progrès vers l'humanisme. Est-ce que l'alliance des populistes sera la nouvelle donne pour 2022 ?
Je crois que M. Mélenchon est toujours dans la modération, mais en l'occurrence, j'ai pas de leçon d'humanisme à recevoir de lui. Nous sommes évidemment aux côtés des Français qui travaillent, aux côtés des Français modestes, ils le savent, ils le savent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une grande partie d'entre eux, une très grande partie d'entre eux, même vote pour le Rassemblement National depuis maintenant des années, et que M. Mélenchon a perdu la confiance de ces catégories.
Vous appelez les électeurs de la France Insoumise à voter pour vous ?
Maintenant, si vous voulez, on est d'accord sur le rejet de la du système de réforme des retraites, and so what, si je puis me permettre pour une fois de parler anglais. Et alors ? Et alors, oui, d'accord, on peut être parfaitement d'accord sur ce sujet-là, et moi je me réjouis, plus il y a de personnes qui sont opposées à cette réforme des retraites, et plus il y a de chances pour que celle-ci soit retirée, donc je m'en réjouis.
Elle a l'air fatiguée, Marine, quand même.
Encore, je sais pas. Bientôt Noël arrive.
Ouais, je sens que là, ça devient dur pour elle.
La bûche arrive, tout arrive.
Bon, ils sont d'accord sur le sujet, voilà, des retraites.
Bah, c'est pas étonnant, les extrêmes s'attirent.
Je te laisse la responsabilité de ces propos, cher.
J'assume totalement.
Gamin. Ma chère Anna, comment ça va ?
Bonsoir Christophe.
Bonsoir Anna.
Je vais bien, merci.
Alors, tu sais
quand je suis dans les studios de France Maghreb 2, je ne peux être que bien.
Bon, alors présente-nous rapidement ton invité parce qu'on va le retrouver dans un instant juste après The Pub. Vous savez qu'il faut faire un peu de teasing quand même, c'est important.
Absolument, Zine Otoefer, un designer d'origine algérienne qui a travaillé pour les maisons de haute couture les plus prestigieuses au monde.
Waouh.
Des marques qui font rêver à plusieurs personnes, les femmes et les hommes, mesdames et messieurs. Il est là pour nous faire entrer dans ce monde select et privé de la mode.
Dans un instant, sur France Maghreb 2, les rendez-vous d'Anna en ce lundi 16 décembre. Soyez les bienvenus, le grand forum. Je te présente Tarek Mami, tu connaissais pas Anna ?
Si, je ne connais pas Monsieur Tarek Mami. Voyons,
ah, oui, c'est vrai,
je connais, j'ai eu déjà l'honneur de le rencontrer. Et,
je vous remercie.
Un charmant monsieur
ici.
Et la conversation avec lui est très enrichissante.
Plate-le bien, c'est le patron. Hein,
je sais que c'est le patron aussi.
Bon, à tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2 ce lundi 16 décembre. Bon courage encore une fois à vous tous et vous toutes qui êtes dans les embouteillages en cette période de grève. Ce qui n'a pas empêché Anna de venir ainsi que son invité pour les rendez-vous d'Anna pour ce lundi 16 décembre. Et preuve qu'avec avec ce rendez-vous hebdomadaire dans cette émission, on voyage beaucoup et on ne reste pas figé dans un secteur en particulier. Parce que aujourd'hui, vous allez pouvoir voir qu'on va, eh bien, s'apercevoir que on va changer de registre aujourd'hui avec le rendez-vous d'Anna aujourd'hui en ce lundi. Absolument, le live en direct sur la page Christophe Le Grand Forum, bien sûr, pour aller voir ce qui s'y passe en direct. Donc, c'est parti, messieurs dames, avec Tarek Mami, Gamal Abina, qui, s'ils le souhaitent, bien sûr, peuvent poser leurs questions dans cette chronique. Hein. C'est Le Grand Forum, bien sûr, dans son intégralité ici en direct. Alors, on y va, c'est parti. Jingle, hop, avec les rendez-vous d'Anna. J'ai juste un tout petit souci. Alors le jingle, il partira pas visiblement, c'est pas grave. Donc les rendez-vous d'Anna. Anna, peux-tu nous présenter ton invité aujourd'hui ?
Oui, alors bonsoir mesdames et messieurs. Mon invité est un designer d'origine algérienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, un créateur de mode talentueux qui a travaillé avec les marques les plus prestigieuses au monde. Je cite Louis Vuitton, Givenchy, Saint Laurent, Ezzedine Alaïa, et qui a eu les éloges, la reconnaissance des plus grands créateurs au monde, comme l'incontournable Elie Saab. Qu'il a rencontré lors de l'émission à laquelle il a participé à Beyrouth, au Liban. Project Runway.
Oh, t'étais très 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 bien en anglais. Anna, c'est bien ça.
Ah bah devant le patron, il faut bien que je montre my skills. Et puis voilà, il a eu un parcours exceptionnel, une success story d'Alger, Paris, Beyrouth, en passant par Barcelone. Là où il est passé, il a fait parler de lui et aujourd'hui il est là avec nous sur France Maghreb 2 pour nous parler de son parcours et pour faire pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui Vous allez avoir vraiment un grand plaisir à découvrir ce designer talentueux. Bonjour Zino Touafer, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Hanna, bonjour Christophe.
Bonjour Zino. L'invitation. Monsieur designer. C'est comme ça qu'on dit. Alors qu'est-ce qu'un designer? On se posait la question il y a quelques instants.
Un designer, en fait, c'est juste un mot en anglais qui signifie créateur.
Ouais.
Donc on peut créer, y a plusieurs disciplines, plusieurs spécialités. Et moi, je suis fashion designer qui veut dire créateur de mode.
Ah oui, d'accord. Ok. Donc dans le monde de la mode, est-ce c'est que ça. C'est un monde fermé comme on l'imagine?
Alors le monde, comme ça, le monde de la mode, il y a deux choses. Il y a les métiers de la mode et il y a le milieu de la mode. Le plus fermé, c'est le milieu. Le plus ouvert sur les arts de la mode et les métiers de la mode, c'est l'artisanat, c'est le travail, le savoir-faire. Donc moi, je dirais que le milieu est fermé et les métiers sont bien ouverts à tout le monde.
Ouais, Anna.
Ouais, c'est magnifique. Alors Zino, tu vas faire un jeune créateur, mais il y a plusieurs années, je vous dirais pas combien, à l'âge de 18 ans, tu as créé Zino, ta première collection et tu, à Alger. Tu as présenté devant un auditorium, il y avait 4000 personnes.
C'est
et
ça.
C'était encore nouveau à l'époque, il n'y avait pas encore la mode, les défilés de mode, etc. C'était vraiment nouveau.
Ouais, en fait, j'ai commencé à la fin de la décennie noire.
Oui.
Où en fait, ce milieu n'était pas très, c'était méconnu même, ça n'existait pas à cette période-là. Et moi, c'était plus l'inconscient en fait qui m'a poussé à faire ça à travers ma mère qui était dans le secteur.
Oui.
Elle était dans le secteur économique, qui veut dire elle était dans le prêt-à-porter, qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais moi à l'époque, par ma démarche artistique et créative. Et du coup, en fait, j'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans et j'ai fait l'université de Bebzouar.
Mabrouk.
Où j'ai intégré les clubs culturels et c'est les clubs culturels de Bebzouar qui m'ont permis de faire défiler ma première collection à l'auditorium de cette université énorme et là où il y avait tous les étudiants de cette
école. C'était comment la réaction des...
On a frôlé
peuple, les meutes. Vous avez frôlé les meutes.
Les meutes en 2003, oui. Ouais. Après, c'était positif parce que les gens ne connaissaient pas et c'était une autre forme de divertissement.
Mais c'était quand même nouveau pour eux, un homme créateur qui leur propose des vêtements
limite,
de femmes.
On n'a pas trop compris. Et puis après, par la tradition, donc je défilais presque chaque année là-bas et on a commencé, on va dire, on a inculqué un peu cette culture et on a commencé à ce moment-là à parler un peu de la mode et qu'est-ce qu'on peut faire de ce milieu-là.
Et est-ce qu'un jour tu t'es imaginé te retrouver à Paris à travailler avec des grands noms auprès de Hasdine Alaya?
C'était un peu c'était le travail de l'ambition, donc après c'était un rêve que j'ai pu réaliser par la persévérance, le travail et tout ça. Et puis oui, donc c'était, je l'imaginais dans ma tête, mais c'était un petit rêve lointain que j'ai réussi quand même à le réaliser maintenant.
Zino Touafer, je note que tu es le seul Algérien qui a pu accéder à ces marques prestigieuses, à ces maisons de couture et qui a appris auprès des légendes dans la mode. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu connais qui a fait ce parcours?
Ce que j'ai traversé, moi, j'étais le seul.
Oui.
Après, je souhaite qu'il y aurait d'autres parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes créatifs en Algérie qui veulent aussi sortir à l'international et faire montrer leur savoir-faire. Donc j'aimerais bien voir d'autres dans ce milieu-là.
Ouais, ce que j'aimerais savoir, comment on peut accéder, comment on peut rentrer dans ces maisons prestigieuses? Est-ce que c'est toi qui vas proposer tes services ou est-ce qu'on te recrute? Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient savoir comment on peut accéder à ce monde ultra prestigieux.
Alors moi je suis pour les écoles. Donc moi, enfin, j'ai commencé autodidacte et puis je me suis formé en Algérie et puis après, donc c'était pas assez, fallait aller à Paris pour façonner un peu son talent et faire une vraie école de mode. Et c'est comme ça en fait qu'on commence à intégrer un peu, à mettre un petit pied dans le milieu. Donc on fait l'école, on fait le cursus classique et puis on passe par les stages dans différentes maisons. Et puis selon les chances et les opportunités de chacun, on décide de quelle maison intégrer par rapport aussi à notre ADN et notre style. Donc c'était ça, moi. C'était vraiment un cheminement classique qui m'a amené à ces maisons-là.
Mais est-ce qu'il y a des agences qui vous appellent?
Oui, après, bon, sur le côté,
faciliter...
quand on commence à devenir professionnel dans ce métier, on a le choix. On peut avoir le choix d'être représenté par une agence et c'est l'agence, en fait, qui met en contact les talents avec les maisons pour des collaborations et des échanges.
Ah d'accord.
Voilà. Des maisons prestigieuses, hein. Des maisons prestigieuses quand même, parce qu'on parle de Givenchy, on parle de Louis Vuitton.
Oui, bah ça c'est. Je pense qu'on vit dans une ville où c'est la capitale de la mode et c'est la ville des opportunités. Donc ça dépend des rencontres, des comment on peut aussi se vendre et vendre son talent. Mm-hmm. J'ai la chance d'être représenté par une agence qui a un portefeuille.
Et le talent, pas uniquement la chance. On a vu, on a vu tes créations.
Après,
tu n'as pas uniquement la chance.
Travail.
Oui.
Qu'est-ce que tu crées exactement, Zino ?
Je crée des robes.
Ah, des robes.
Et des sacs aussi.
Et des sacs.
Et des sacs aussi.
En fait, j'ai eu un passage aussi. En fait, j'étais aussi en Algérie designer mobilier et j'aime bien. Enfin, je dessine de tout. Et quand j'ai l'occasion de réaliser ce que je dessine, donc là, c'est vraiment la consécration.
Les robes, c'est pas pour gamin ni pour Tarek Mami. Hein.
Ah ouais, ça c'est sûr. On a ramené les.
On sait pas.
Les tenues de les vêtements de sport islamique de Sindid, c'est pour vous.
Ah oui, regardez bien parce qu'on va vous les offrir.
Parce que ça, c'est un secteur qui ne s'arrête pas de se développer, et c'est plutôt pas mal là, qu'on commence à faire des choses que le public accepte, ou c'est en symbiose avec ce qui se passe dans l'autre milieu de la mode.
D'accord.
C'est vraiment pas mal ce qu'ils font, vraiment je les salue.
Mmh. C'est pas facile de se faire un nom, de se faire une autorité, de se faire une personnalité dans ce monde quand même, qui, je le disais tout à l'heure, hein, qui est assez fermé quand même.
Voilà, je reviens à la chance, je pense, et les opportunités, les rencontres. Après, il faut être ouvert aussi sur le monde. C'est quand, si on quitte un continent pour aller vivre dans un autre, je pense qu'il y a un travail d'ouverture d'esprit. Il faut s'ouvrir les yeux et l'esprit pour accepter ce qu'on va voir de nouveau et se faire accepter aussi. Donc tout est question d'échange.
Zino, depuis tout à l'heure, on parle du monde de la mode, à quel point il est beau, merveilleux, il y a les couleurs, les paillettes, ça fait rêver, etc. Par contre, il reste quand même un monde impitoyable. Des trahisons, la jalousie, des coups bas. Est-ce qu'on te déchire, par exemple, tes croquis?
Je pense que tout le milieu du travail, il y a des soucis. Mm-hmm. Il y a des problèmes. Après, c'est l'humain par sa nature. Et du coup,
en laissant un peu arrogant et tout. Voilà.
Un peu peut-être dans les milieux créatifs, qu'on soit artiste peintre ou designer de mode ou autre, enfin, dans ces disciplines.
Ah, ils sont comme ça. Hein.
Je pense qu'on est, voilà, on est vraiment dans une compétition un peu plus dure que le
tu
reste.
Tu sais, tu peux tout nous dire. On est que entre nous, hein, avec les auditeurs de France Maghreb 2. On est une grande famille. Et là,
je dis la vérité, que la vérité, t'inquiète.
Levez la main droite et dis je jure.
Est-ce qu'il y a un problème, en toute honnêteté, par exemple, toi, tu es algérien, tu es arabe.
Oui.
Est-ce qu'il y a un problème de racisme on est à Paris.
Honnêtement, ça dépend. Mais oui.
Ouais.
Je suis passé par là. Et après, je suis une personne. Après ça, je parle de mon expérience personnelle. Mm-hmm. Je suis quelqu'un qui se victimise pas trop. Donc, je préfère pas trop rentrer dans ces détails. Mais oui, je pense qu'en. Comme partout, on passe par des gens un peu racistes qui veulent un peu nous mettre des bâtons dans les roues. Après, moi, je pense que je viens d'un pays où ça a forgé ma force. Mmh. Et j'ai assez d'énergie pour les écraser avant qu'ils passent par ma route.
On aime, on valide.
C'est pour ça que j'ai enchaîné les maisons, sinon je suis mort à la première expérience.
J'aimerais bien demander à Tarek Pamy ou Gamal Abina s'ils ont une question à te poser, parce que c'est un univers qu'ils ne connaissent peu, un peu comme moi, je crois. On va pas se trahir, messieurs.
Moi, la question que je poserais à Zino, c'est est-ce que quand vous dessinez, ceux qui sont en face s'attendent automatiquement à ce que vous produisiez quelque chose d'oriental, en guillemets, ou ils sont surpris que vous ne faisiez pas beaucoup d'oriental, j'allais dire quelque part, que c'est votre inspiration à vous qui s'impose à eux et pas leur regard à eux qui s'impose à vous.
En fait, j'ai eu pas mal de je vais dire ça comme ça, c'est un peu cru, mais quand on va à l'international, c'est qu'il y a beaucoup d'incultes dans le milieu. C'est qu'on voit que je suis arabe, que je suis d'origine algérienne, donc tout de suite ils vont s'attendre à des choses un peu orientales, avec des paillettes, avec de la dorure et tout ça. Dès que je dessine autre chose d'universaliste, de minimaliste, de quelque chose de où tout le monde peut comprendre, quelle que soit la nationalité, on est surpris. On est choqué. Et là, moi, j'ai juste un mot à leur dire, c'est que voilà, pour moi, c'est des incultes et qui s'ouvrent pas plus que nous. Je pense qu'on est beaucoup plus ouverts qu'eux.
C'est vrai.
Moi, j'ai deux questions.
Oui, Gamal, vas-y.
Déjà, la première question, c'est concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur les vraies écoles de couture. Mm-hmm. Ce qui veut dire que vous avez été formé en Algérie, à Babelzouar, et vous me dites que vous arrivez à Paris. Bon, je comprends, mais je pose la question pour le public. Hein. Et vous avez vu des vraies écoles. Ça signifie qu'en Algérie, il y a un défaut en termes de
problèmes. Oui, énorme. En fait, c'est un secteur économique abandonné, parce qu'il y a eu quand même une certaine époque, il y a eu du prêt-à-porter, où on s'habillait Made in Algérie avec fierté. Ouais. Et puis, vers les années 80, à la fin, et puis les 90-2000, on s'est effacé de la surface et puis il y a eu l'invasion de produits importés et là on arrive à ces années-là où on sait même la génération de maintenant c'est même pas qu'il y a eu production algérienne qu'on avait des articles made in Algérie. Donc oui, la faille est énorme.
Vous allez voir, ça a marché. Hein.
D'ailleurs et quand on voit le maillot algérien se faire fabriquer ailleurs, ça fait mal quand même. Du coup, oui, il y a une faille énorme en Algérie par rapport à la formation, à l'éducation par rapport à ce métier-là, c'est qu'on n'a pas de vraies écoles, on n'a pas de vraies académies qui forment les jeunes générations.
À développer,
c'est la seconde étape.
À développer, oui, pourquoi pas.
Plus tard, pourquoi pas ouvrir une école
pourquoi
pour
pas
former.
À Alger, se servir de sa notoriété.
En fait, en plus, ça va aussi en parallèle avec l'évolution de la société. Ouais. C'est qu'il faut d'abord éduquer la société à accepter ce genre de métier.
Ouais.
Parce que ma mère aussi, à l'époque, quand j'ai eu mon bac, elle voulait pas que je fasse couturier, elle voulait que je sois médecin. Donc ça aussi, en fait, c'est social aussi. C'est pas que il faut mettre une école de mode, donc il y aura des gens qui vont venir s'intéresser à ça et faire ça.
Peut-être qu'elle voulait te protéger aussi parce que c'était difficile à l'époque.
Aussi, il y avait ça. Aussi,
musulmane un peu renfermée et d'accepter qu'un homme soit créateur, coiffeur ou maquilleur ou.
Oui, c'est aussi, il y avait ça. Il y avait
c'est
ce
pas franchement une bonne image, faut dire.
Ouais, du coiffeur en Algérie, on a.
Oui, on a pas mal. Il y a des couturiers aussi. Il y a des couturiers aussi.
Il n'y a pas besoin d'aller à Alger, tu vas au métro La Chapelle, tu vas voir.
Exact. Après, oui, pour la formation, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas trop à ce secteur. Et puis pour nous, voilà, on a le pétrole, ça nous suffit. On arrête là, c'est la connerie humaine. Donc on a ça nous suffit, on s'arrête là.
Une question que je voulais poser, c'est alors sur la question du racisme, évidemment il existe, il ne faut pas se cacher derrière son petit
doigt. Oui, c'est clair.
Mais par contre j'ai noté qu'en opérationnel, c'est-à-dire que quand on est créatif, on est caché, donc ça peut passer. Je note quand même qu'il n'y a pas de mannequin arabe, ça n'existe quasiment pas.
C'est très rare.
Ça existe, mais elles sont peu.
Quasiment pas, et le problème c'est que ceux qui font la mode... clairement des réflexes racistes parce que les plus belles femmes quasiment sont orientales, on le sait parfaitement, c'est sans vouloir
très objectif,
toutes les femmes du monde
très objectif
en méditerranéenne pour faire ça,
merci pour nous.
Oui, mais elles ont les attributs qu'on connaît qui correspondent à la mode, et pourtant elles ne sont pas sur les oui, clairement le 69-90 c'était elles sont vraiment elles ont le standard de beauté qu'on attend.
Alors il y en a quelques-unes pas en France, il y en a quelques-unes en Espagne et en Italie qui sont très connues, notamment une qui s'appelle Jenifane, d'origine tunisienne.
Oui, Afef.
Il y a Hanen aussi.
Elles sont plutôt en Italie et en Espagne qu'en France, parce que la France est un peu particulière.
Elle a eu son époque, la France.
Il y a aussi une Algérienne, Sarah Gendouz, d'ailleurs c'est l'égérie de Zino Touafa. C'est sa muse. Elle l'accompagne depuis plusieurs années et elle fait partie des Algériennes mannequins qui représentent l'Algérie à l'international. Elle a défilé au Liban, elle a défilé aussi
à Paris, Barcelone,
avec Zino, etc.
Je précise quand même ma pensée par rapport à ce que je disais. Ce que je veux dire, c'est que dans la haute couture, il y a les top modèles qui étaient très connus.
Oui.
On a vu des noirs, pas de problème. C'est arrivé deux fois entre Iman et puis
Campbell.
Non,
mais au bout de 50 ans.
Oui, mais ça change rien. C'est arrivé. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées avant nous, alors qu'elles sont minoritaires en France.
Oui.
Alors que c'est la France qui fait la
mode. Elles sont pas françaises. Elles viennent des États-Unis.
Oui, mais ça change rien.
Non, mais
ça change. Oui, mais le fait est que
le complexe.
Il existe des mannequins libanais aux États-Unis qui ne viennent pas en France. Ce qui se passe, c'est que les top modèles n'ont jamais été arabes. C'est ça ce que je veux dire. Je suis très précis dans ma.
Zino.
Alors là, je vais vous parler par rapport à la France. La France, elle a eu son époque de top modèle arabe. On a eu Farida Khalfa, on a eu Afef Jenifane. Après, on montre ce qu'on a envie de montrer.
Ouais.
C'est que après, même je pense que on travaille sous les dictats des tendances. Donc si cette année les mannequins arabes sont pas tendance, on va pas les prendre, même si on a pas mal et on a beaucoup. Après, elles sont aussi destinées vers un certain marché qui n'est pas l'européen, qui est plutôt le marché du Moyen-Orient. Donc on voit des marques internationales aller défiler à Dubaï ou à Abu Dhabi ou où on veut au Moyen-Orient.
Ça, c'est
du
tendance,
Golfe.
Hein.
On va prendre des arabes parce que l'arabe vend. C'est ça. C'est que maintenant c'est très localisé.
Ouais.
Oui, avant c'était
mais ils prennent
plus
des Libanais
ouvert
et tout. Et c'est là où je voudrais rebondir sur cette phrase parce que tu as participé à l'émission sur NBC, une grande émission qui diffusait, regardée partout dans le monde arabe, Project Runway. Parmi les membres du jury, c'était Elie Saab.
Et Afef Jenifane aussi.
Oui. Et déjà, pourquoi tu as fait cette émission? Tu recherchais quoi en plus, toi qui es confirmé et qui est auprès des grands créateurs ici?
En fait, l'émission par donc je la connais, je connaissais la version originale qui est new-yorkaise à la base. C'est que quand même c'est pas que de la télé-réalité, parce que les gens pensent que c'est de la télé-réalité, tout est facile, tout est fait par d'autres personnes et tout, oui. Sauf que là non, on faisait tout seul. C'était plus pour voir à quel point je pouvais me surpasser et je voulais aussi renouer avec mon côté oriental et il y avait un besoin. Et aussi être drivé par Monsieur Elissab, c'est quand même une chance inouïe. Oui. Et ça se passe une fois dans la vie, je pense. Et du coup, je l'ai fait plus. Donc c'était plus le gros défi, le gros challenge.
Est-ce qu'il a fait le créateur designer hautain, vu qu'il est connu à l'international, il a
non, pas du tout. Ça. Franchement, il est ce qu'il est. Après, voilà, j'ai tous mes respects pour lui. Mm-hmm. Après, c'était plus. Des rapports professionnels qu'on avait d'accord. avec lui que personnels.
Les gens connaissent le racisme entre les Arabes et les Occidentaux, etc. Mais il y a une autre forme de racisme
oui.
qui existe, vous savez, même entre Arabes, malheureusement. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, toi, en Algérien et Arabe en général, ici en France, tu as dû faire face, et tu nous l'as confirmé, au racisme. Et quand, lorsque tu étais au Liban, est-ce que tu as fait face à une autre forme de racisme
oui.
qui est, celui-là, il est maghrébin. Et nous,
c'est
on
la première
nous,
fois
Libanais
que je le dis d'ailleurs, parce qu'on ne m'a jamais posé cette question, mais je pense qu'il est pire, malheureusement.
Ah ouais. Oui, ça fait plus de peine, on se sent trahi.
Ici, on te casse, tu peux te relever, il y a les moyens.
Oui,
on
oui.
peut se donner les moyens parce oui. que voilà, il y a d'autres. Là-bas, on te casse, tu ne te relèves pas.
Oui, ouais.
Parce qu'il y a quand même une masse. Contre toi qui veut pas que tu sois oui. vu, que tu sois
absolument.
Et quand même j'étais le seul candidat qui n'a jamais été en zone rouge,
oui.
jamais nominé, et là on a vu que le public était sur moi
oui.
et à un moment on voulait carrément m'éliminer et on m'a éliminé dans une candidate très très faible qui a été 15 fois
ouais.
nominé.
Ouais.
Donc oui, là c'était une forme de racisme, une forme de comment on dit en arabe, tahayyus, c'est pas le racisme le
tahayyus,
oui.
Un parti pris.
Parti
voilà,
pris, ouais.
c'est ça.
Ouais.
Donc la nationalité jouait pour beaucoup.
Ouais, et ça se passe malheureusement, c'est dans plusieurs domaines, même
et
dans l'audiovisuel, si vous me permettez. Je sais que c'est pour une autre émission, si vous voulez qu'on aborde ce sujet, mais c'est un débat très important parce que nous, en tant que
personne n'ose l'aborder,
professionnels de l'audiovisuel
ailleurs,
ici, lorsqu'on se trouve en France, lorsqu'on tape aux portes des chaînes françaises, on nous dit qu'on est des Arabes, etc. Bon, hein. Et lorsqu'on tape aux portes des chaînes arabes basées ici, on ne nous prend pas parce qu'on est maghrébin.
Exactement.
Et parce qu'on n'est pas des orientaux.
Exactement.
Et ça, c'est une vérité. Et il faut que les gens sachent cette vérité.
Oui.
Parce
ça,
qu'on est là,
vécu,
on est là pour
le
combattre
voilà,
la désinformation et les fake news, et il y en a marre de tout cacher. On va revenir à la mode maintenant. Monsieur le directeur de France.
moi, j'ai une question.
Oui.
Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, il y a l'idée qui trotte dans votre tête de créer votre maison, comme l'a fait à la fin donc Azdine Alaïa, comme le font d'autres, parce
pour
que
qui il a travaillé,
pour qui, avec qui vous avez travaillé, parce qu'à certains moments la création d'une maison met la lumière sur vous et la déplace d'être le styliste ou le designer des autres à être votre propre patron, y compris dans une grande boîte.
Alors je vais vous dire quelque chose, c'est que moi j'ai fait un peu les choses à l'envers. Du coup, quand j'ai fini mon école à Paris, j'ai plutôt, j'ai fait mes stages et tout ça, mais rapidement j'ai fait le tour, et comme j'ai pas fait le cursus classique d'un français de base ici, les 4 ans et tout ça, moi j'ai fait une année de master à Paris, je suis parti directement créer ma marque. Un gros risque, mais je l'ai vécu. C'est là où j'ai produit de la maroquinerie, où j'ai un peu touché à tout, et vite j'ai compris que la mode, pendant cette période-là et cette époque, notre époque actuelle, est très gourmande. C'est que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de financiers derrière. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les financiers ne font plus confiance aux jeunes créateurs.
Ouais.
Pas comme avant, à l'époque de Azdine Alaïa, Jean-Paul Gaultier, où on y allait au flow. On croyait au talent. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Et les financiers sont un peu plus sceptiques par rapport à ce secteur. Et même maintenant, il y a les gros groupes. Donc, en fait, nous, on est effacés. On n'existe plus. Donc, chacun existe juste à travers son image à lui. Et ça a aux initiatives. On ne va pas loin.
Alors, une question qui m'a été posée par un auditeur sur les marques algériennes et faisant référence d'ailleurs au maillot de 1982. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage, Zino, sur les marques algériennes à l'époque?
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a travaillé pour Maison Filor, par exemple, qui était la maison numéro 1 de la maille en Algérie, qui a fermé ses portes pendant la décennie noire. Elle a travaillé dans l'article sportif, on fabriquait le coq sportif en Algérie et pas le maillot algérien. Donc, encore plus, c'était énorme chez nous. D'importer le maillot français vers là, c'est incroyable. Et au jour d'aujourd'hui, on a pratiquement plus rien. sauf les initiatives qui restent au niveau initiative. Ça se développe pas, c'est pas un secteur économique sur lequel on peut compter. Donc c'est plus des essais personnels où chacun essaye d'exister à travers les réseaux sociaux, à faire du tarabando, comme on dit, à faire du
business.
Voilà, c'est ça. On va pas loin.
Anna Guézard Brocage.
Après, je les blâme pas parce qu'on n'est pas accompagné ni par les ministères concernés, ni par des investisseurs, ni par qui que ce soit. Donc, je salue plutôt ces petites initiatives.
Zino, toi, tu as fait quelque chose ici à Paris durant la Paris Fashion Week, qu'aucun autre créateur, aussi grand et important qu'il soit, ne l'a fait, excusez-moi. Alors, tu as conquis la Paris Fashion Week car tu as créé un défilé de mode sur le pavé et tu as fait défiler tes mannequins dans les rues de Paris en passant par le métro. Une collection que tu as appelée...
En ce moment, il est bien embêté, là-bas.
Paris Metropolitan Lights. Raconte-nous cette expérience des mannequins, des super belles filles, des créateurs. Tu peux.
Quand on passe par des maisons de couture et on voit que tout le monde défile dans des salons parisiens avec dorures, moulures et tout ça,
oui.
À un moment, on a envie un peu de sortir de cette cage dorée et de faire autre chose que
et
tout le monde.
Et de vulgariser la
ça,
mode.
Ça, c'est de un. Et ouais. De deux, la vraie chose, c'est que j'avais pas de thunes pour louer un salon parisien non plus. Voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Il fait beau,
c'est
on est en plein été.
C'est le système des aides, ça, Zino.
Exact.
Non, mais c'est excellent.
Et aussi montrer la diversité parce que les mannequins étaient de nationalités différentes. Qui vivait à Paris, de montrer vraiment la vraie capitale de la mode, c'est que les touristes qui viennent à Paris, ils voient pas beaucoup de mode.
Mais
en fait,
même
à part
nous, les habitants de Paris, on voit
voilà.
pas.
Du coup, c'était un beau.
C'est vraiment réservé à. Et c'est
un
sur
beau projet autour du
divertissement etc.
touristique.
Et le ramener le défilé dans la rue. Ouais. Ils ont fait quel parcours, tu peux.
On a fait toute la ligne 1.
Oui.
Et on est descendu, donc on est sorti sur tous les endroits touristiques comme le Louvre, le Carré des Halles.
Sous les applaudissements des touristes,
des gens, il y a la vidéo sur Vimeo qu'on peut la voir.
Et vous êtes arrivé jusqu'à la.
Et à la fin, on a fini devant le défilé Versace. C'était le premier défilé de la Fashion Week, le premier jour.
Vous l'avez retardé d'ailleurs.
On l'a retardé de 30 minutes parce qu'on a foutu un peu le. Voilà.
Est-ce que tu peux le refaire demain à 8h en pleine heure de pointe dans le métro, s'il te plaît, Zino?
Comment?
T'es capable de le refaire demain en pleine heure de pointe à 8h
pendant la grève?
Ouais.
Un peu compliqué, mais j'aimerais bien.
J'ai l'impression, ouais. Bon, en tout cas, c'est un grand talent qui est avec nous ici sur France Paris 2.
Oui,
Anna, déjà très vite la dernière question s'il te plaît.
Gamal,
vas-y.
Moi je pense que il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'actuellement ce que les gens ne savent pas, c'est que les tenues de police sont fabriquées en Algérie parce qu'il y a une résurgence du secteur textile en Algérie. J'en parle comme ça parce que j'espère que ça va évidemment évoluer et il y a une très grande usine turque qui a été installée à Rilizan,
il y a les deux unités, mais
voilà.
Est-ce que ça a été
en cours, c'est les Turcs qui font le boulot.
Oui.
Et on espère que ça va aboutir évidemment. Mais en tous les cas,
c'est pour le jean.
C'est pour le jean pour commencer, mais ils font aussi tout ce qui est
fil. Et là, on avait dit, donc il y a 2-3 ans, que ça allait ouvrir le secteur et qu'on allait recruter, qu'on allait quand même gérer le problème du chômage, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'unité de fabrication de Rilizan, elle n'est pas fonctionnelle à 200%. Okay. Et on n'en sait rien d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Donc si là, on tape actualité, on ne va pas trouver grand chose. Et c'était aussi un projet très très discret et limite dans le secret. Donc on ne sait pas trop.
Anna, dernière question.
Et c'était aussi un projet importé. Donc
oui,
aucun Algérien n'en fait partie.
Ça fait Turquie,
malheureusement.
Anna Gazabrocaz.
Oui, Anna Gazabrocaz. Zino, toi, après tout ce parcours, et je sais que le chemin est encore lent et on te souhaite la plus grande des réussites. Est-ce que aujourd'hui, tu sens que tu as la reconnaissance en Algérie? Est-ce que la presse, etc., et le public algérien?
En fait, moi, j'ai jamais commencé avec j'ai jamais fait ce métier pour la reconnaissance, en fait. Surtout en Algérie, parce que je pense qu'on a beaucoup d'autres problèmes à gérer et beaucoup d'autres sujets à développer que d'avoir une reconnaissance.
Non, mais lorsque tu fais des défilés, etc., quand même.
Non, après,
tu travailles
après,
avec des
marques
internationales.
Moi, franchement, la reconnaissance, c'est le, quand on voit des gens, de l'intérieur des pays envoyer des messages sur les réseaux sociaux, ils me disent, voilà, maintenant, on va laisser nos enfants faire ce métier. C'est que j'ai quand même, ça, c'est ma plus grande reconnaissance et c'est plus beau. Après, de la presse ou du système ou de l'État, moi, ça m'intéresse pas beaucoup.
Je sais que tu as habillé.
Je le cherche pas.
Tu as habillé plusieurs actrices, notamment Shirine Boutella, l'actrice du film Papicha au Festival de Cannes.
Un super film.
Oui. Et qu'on va, moi, je vais pas spoiler, mais j'ai des surprises pour vous.
Très bien. J'espère bien. C'est pour ça que je t'ai prise. Hein, absolument.
Et, on sent.
Habiller Papicha en plein mois d'avril.
C'est un clin d'œil pour les actrices. Est-ce que c'est
une forme de solidarité? C'était obligatoire pour moi, en fait. Donc, c'est la chance de connaître l'équipe. Et puis habiller Shirine à ce moment-là, c'était symbolique plus qu'autre chose parce qu'on était en début de Hirak, parce qu'on voulait montrer aussi une femme internationale algérienne qui peut faire un tapis rouge, pas avec un caracou et un caftan.
Oui.
tous mes respects aux tenues de notre patrimoine et de notre histoire, ouais. Mais aussi on a d'autres Algériennes qui veulent montrer autre chose et elles ont le droit.
Absolument. Voilà.
Donc moi je l'ai juste aidé à ce qu'elles montrent.
Merci beaucoup Zino d'être venu ici nous présenter un petit peu c'est un art. C'est un art.
Oui, c'est un vrai art.
Oui, c'est un vrai art, absolument. Notre invité ici, donc, dans les rendez-vous d'Anna, la semaine prochaine.
Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
La semaine prochaine, pour la dernière de l'année, des rendez-vous d'Anna, Anna Guézard-Boicaz, qui sera ton invité?
Qui sera mon invité?
Oui.
Une surprise. Une jeune talentueuse, une chanteuse, qui s'appelle Senda Boutella, qui n'est autre que la sœur de Shirin Boutella.
Ah oui.
Je vais vous ramener toute la famille.
D'accord, très bien.
Et qui a sorti une chanson magnifique. Vous allez tous être surpris, vraiment. En anglais, on a l'impression d'écouter Jennifer Lopez ou Rihanna.
Ah ouais, ah, carrément. Ah,
ouais, je pèse mes mots.
Mon petit doigt me dit Gamal sera là.
C'est la sœur du guitariste.
Non, c'est la sœur de l'actrice. Non,
parce qu'il y a un autre,
Safi Boutella.
Il y a Safi Boutella. C'est le fils, oui, qui est un grand guitariste algérien. Safi Boutella, l'autre, il lui s'appelle.
On lui posera de toute façon la question la semaine prochaine.
Merci Anna, merci beaucoup Zino.
Merci à vous.
Merci.
Dans un instant, le quiz pour finir tranquillement en beauté cette émission. Le Grand Forum, merci d'être avec nous dans cette émission. On parle de tout, on a parlé de Mélenchon et du CRIF. On est parti dans la mode et là on va terminer par un quiz. Comme quoi c'est vraiment l'émission référence de la bande FM. Ça sur France Maghreb 2 tous les jours. Ça s'appelle Le Grand Forum avec aujourd'hui Tarek Mami et Gamal Abina, ici même présents sur France Maghreb 2, qui vont s'affronter maintenant dans un quiz.
Est-ce que vous savez qui c'est qui écoute là de l'autre côté de la barre?
J'imagine qu'il doit y avoir un certain Abdeslamitash.
Non, il y a Monsieur Modeste qui nous écoute.
Ah oui, Monsieur Modeste, alias Monsieur Mitache, hein, bien sûr. Ouais. Gamal Abina,
on le salue.
T'es surveillé très près, hein.
Ah, je vois ça,
ouais. Ouais. Alors, j'ai un bon quiz bien corsé, puisque on m'avait dit oui, il nous faut un quiz, tout ça, machin. Ok, pas de problème. Moi, j'ai répondu à vos attentes, messieurs. Et j'ai des bonnes questions. On y va. Je vous souhaite bonne chance. Première question.
Et comme du Coluche, nous avons les bonnes réponses.
Ouais. Oui. Question histoire. On est en 1600. Je parle du mariage de Henri IV. Qui a épousé Marie de Médicis. Où a eu lieu ce mariage? En 1600. Dans quelle ville française?
Orléans?
Non.
Alors, est-ce que c'était à Reims, qui est la capitale?
Non, du tout.
Versailles n'était
je
pas
vous
encore
donne
Versailles.
Un indice.
Versailles n'était pas encore Versailles.
Non, je vous donne un indice. Un chroniqueur du LGF.
Marseille?
Non.
Non, il n'y avait pas de.
Un chroniqueur?
Un chroniqueur du LGF est né originaire.
Montpellier? Ah, c'est pas. Comment ça? Dans l'or, ça, c'est...
Non,
un chroniqueur
du LGF, il est...
Ah oui, alors c'est Lyon.
Voilà, merci Tarek Mami. C'est à Lyon qu'a eu lieu ce mariage.
Non, mais parce que je cherchais quelles étaient les villes.
Mais oui, c'était
Lyon. De l'époque.
Oh là là.
D'accord. Je cherchais des trucs compliqués.
Voilà, ça c'est cadeau Tarek, bravo. Allez, question encore histoire. 1914, sur quel pays les Britanniques proclament leur protectorat?
L'Écosse.
Non. Pays arabe.
Un pays arabe, c'est l'Irak?
Non, pas du tout.
Ah, la Jordanie?
Non.
Stop. Ah, bah là, le Palestine, je suis bête.
Non, pas du tout.
Même pas?
Pas du tout. À côté. Un très grand pays.
Jordanie.
Arabe.
L'Égypte.
L'Égypte, merci.
Oh,
En 34?
Ah, oui,
non, 14. J'ai dit 1914.
14, bah oui, après, il y a 20 ans après.
Je l'ai dit 3, 4 ans.
Non, mais là, c'est honteux.
Ah oui, non, c'est honteux, là, franchement.
On sent que j'ai pas
d'argent. 2-0 pour Tarek Mami. Ah, j'en connais un qui doit être content.
Je vais remettre les neurones en
fond. Troisième question. Qui devient Premier ministre en France en 1946?
C'est pas De Gaulle, Léon Blum.
Oui! Ah, il l'a eu celui-là. Léon Blum, effectivement, devient Premier ministre en 1946. Allez, quatrième question. On est dans le quiz. Gamal Abina, Tarek Mami qui mène la main pour l'instant. On est en 1959. La Belgique promet l'indépendance à quel pays africain?
Ah, bah ça, c'est le Congo.
Le Congo est une bonne réponse. Deux partout.
Le Congo Kinshasa, pour être précis.
Deux partout. Les jeux ne sont pas faits, comme on dit. Cinquième et dernière question. Qui devient président d'Haïti en 1990?
Jean-Bertrand Aristide.
Après plus de 30 ans de dictature.
Jean-Bertrand.
Bonne réponse.
Aristide. L'ancien prêtre devenu dictateur à son tour, malheureusement.
3-2 pour Gamal Abina. Merci.
Les opprimés d'hier, ça fait toujours les oppresseurs.
Le lendemain.
1990, messieurs dames, hein. Voilà.
Il y a toujours 90. Une différence d'un demi-point?
Non,
d'un point. Moi, c'est un point.
Alors, monsieur Gamal Abina, qui est donc vainqueur et qui remporte ce match 3-2. Mais je suis sûr que Tarek t'a laissé gagner, moi. Je sais pas pourquoi.
Ah, je sais pas, j'ai un doute. Mais bon, j'ai quand même été rapide sur Aristide.
Ouais, oui, oui. Mais alors, pour le mariage.
Ah, là, au Lyon,
j'ai. Franchement, celui-là.
On sent que je fais. Et puis l'Egypte.
Ah oui, l'Egypte, quand même.
L'Angleterre, l'Egypte, c'est une longue histoire d'amour qui continue d'ailleurs.
En plus, ouais. Genre, tu t'appelles pas Gamal, ouais, pour rien,
c'est honteux, honteux. Là, vraiment, on sent que j'étais à la ramasse.
Donc là, vous avez 3 points de plus que Modeste, 3 points et demi.
Oui, alors.
Je sais pas comment on calcule, mais bon.
Le calcul, c'est 1 point de plus.
Une victoire, c'est 1 point.
Voilà, c'est 1 point et c'est le nombre de.
Après, il y a le goal average.
Voilà, c'est le nombre de.
Que vous avez vu le tirage de la Ligue des Champions.
Donc vous avez récupéré le demi-point de Monsieur Modeste.
Oui, je suis devant lui.
Et vous prenez un demi-point.
Absolument. Et le problème, c'est qu'il manque une partie sur lui.
Ah. Ouais, ouais, ouais. Le tirage de la Ligue des Champions a eu lieu, hein, puisqu'on entend cette belle musique.
Ah, ouais. Donc, c'est Dortmund pour
Dortmund
PSG.
Pour PSG et la Juve pour Lyon.
Wow, Lyon.
Ah oui, Lyon.
La Juve. Je salue mon ami Mehdi.
Oui.
Ah, je lui promets que je regarderai le match. La main sur le cœur, en espérant que l'impossible.
Et on cherche toujours Marseille, hein, qui ont, non, sont dans aucune compétition européenne. C'est fini.
Elle est deuxième du championnat de France.
Merci à tous les deux. Rendez-vous demain pour la spéciale du LGF. On va parler de psychiatrie demain dans un instant.
Deuxième,
le journal, 18h. Coupez-lui le micro. Sophie Terrence, bonsoir Sophie.
Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité. L'annonce intervient à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye démissionne. Le haut commissaire aux retraites est fragilisé par des révélations sur ses activités non déclarées. Une annonce qui tombe mal. Vous entendrez l'analyse d'un politologue à ce sujet. Et les syndicats, eux, se préparent à une nouvelle journée de mobilisation massive. Transport, école, on fera le point sur les perturbations attendues. Et puis le Borussia Dortmund pour le PSG, la Juventus Turin pour Lyon. Tirage au sort à la mi-journée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il considère que la confiance est, je cite, fragilisée sous les coups d'attaques violentes et d'amalgames mensongers. Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission au chef de l'État qui l'a acceptée. Une décision qui intervient après une semaine de révélations sur ses activités et mandats non déclarés. Alors peut-on parler d'un coup dur alors que le gouvernement est en plein bras de fer avec les syndicats? Réponse avec Pierre Dumazot, directeur de la rédaction de la lettre de l'Expansion.
C'est évidemment un coup dur qui contribue à décrédibiliser l'action gouvernementale et aussi directement le choix du chef de l'État, car Jean-Paul Delevoye, c'est le choix d'Emmanuel Macron, donc c'est un coup dur. C'est une polémique dont l'exécutif se serait évidemment passé en plein bras de fer et en pleine négociation extrêmement difficile avec les syndicats. Et puis, ça vient renforcer également ce climat de défiance contre les ministres, contre les politiques de manière générale. Donc, c'est une bonne affaire pour personne.
Propos recueilli par Boris Karlamov. Et dans ce contexte, la journée de mobilisation se prépare. La SNCF indique ce soir que le trafic sera encore très perturbé demain, avec un TGV sur 4 et un Transilien sur 5 en circulation. Olivier Montaigu, le pays va une nouvelle fois tourner au ralenti demain, notamment dans les transports.
Oui, les syndicats du ferroviaire, SNCF et RATP ont promis qu'il n'y aurait pas de trêve hein, pour les fêtes de fin d'année. C'est donc ce mardi que sera dévoilé le plan transport. Vous allez être contacté individuellement pour savoir si votre train est maintenu ou non le week-end prochain. Si vous avez un voyage prévu entre le 24 et le 27 décembre, il faudra attendre jeudi pour en savoir plus. Cette mobilisation du 17 décembre, c'est aussi la mobilisation de tous les syndicats, même les réformistes CFDT et UNSA, qui valident le principe de retraite universelle, mais condamnent l'âge pivot. Ils seront donc dans les cortèges avec les magistrats, fonctionnaires, enseignants, avocats, internes en médecine et soignants à l'appel du collectif Interurgence. Des manifestations sont prévues dans la plupart des grandes et moyennes villes. À Paris, tous les commerces entre la place de la République et la place de la Nation ont pour ordre de baisser le rideau.
Et pour clore ce sujet, notez que la Banque de France assure ce soir que la croissance ne devrait pas pâtir des grèves. Elle maintient ses prévisions pour 2019 à 1,3%. En revanche, la Banque centrale revoit nettement à la baisse ses chiffres pour 2020 et table désormais sur 1,1% contre 1,3% en septembre. Une baisse liée, selon elle, au ralentissement de l'économie mondiale. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle demande de remise en liberté pour Patrick Balkany. Elle a été déposée ce matin par son avocat compte tenu de l'état de santé de son client. Patrick Balkany est hospitalisé depuis 4 jours maintenant pour une occlusion intestinale. Il était donc absent cet après-midi à la reprise de son procès en appel pour fraude fiscale. Dans l'affaire Toscan du Plantier, le principal suspect Ian Bailey va être extradé. L'Irlande a accepté cette demande de la France cet après-midi. Ce journaliste anglais a été condamné en mai dernier à 25 ans de prison prison pour le meurtre de Sophie Toscane Duplantier en 1996. Yann Baillet a toujours nié être l'auteur du meurtre. Une violente agression à Paris cet après-midi. Deux jeunes filles ont été poignardées par un automobiliste après un différend sur la voie publique dans le 8e arrondissement. L'une des victimes a été gravement blessée, l'autre plus légèrement. La conductrice a été interpellée. Le foot, le Borussia et la Juve, voilà les deux adversaires de nos deux clubs français qualifiés pour les 8e de finale. Le tirage au sort a eu lieu à midi. Le Borussia Dortmund sera l'adversaire du PSG. Paris, qui monte en puissance, sera favori. Mais il faudra être prêt le jour J pour Leonardo, le directeur sportif parisien.
C'est vrai qu'on a un potentiel que je pense qu'on peut arriver avec une grosse possibilité de bienfait. Je pense que Borussia ne sera pas content de prendre Paris Saint-Germain. Je pense que c'est comme ça aussi. Et bon, on va voir comment on sera. Ça dépend du jour, de le jeu, de moment. Et bon, on espère d'être bien au bon moment.
Borussia PSG, match aller à Dortmund le 18 février. Pour Lyon, ce sera la Juventus de Turin, emmenée par Cristiano Ronaldo. Lyon-Juventus, match aller à Lyon le 26 février. Retour le 17 mars à Turin. Et parmi les autres chocs de ces huitièmes de finale, Real Manchester City, Chelsea Bayern ou encore Naples Barcelone. Excellente soirée à tous.
France Maghreb 2. France Maghreb 2.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.
France Maghreb 2. France Maghreb 2.